voulez bien discuter de la musique par rapport local, de l'élixir et du flacon, du contenu et du compte. Non ?
Radio Campus.
Non, je vous en parle parce qu'on vit un tournant capital de notre histoire. Une nouvelle ère. On entre dans une époque charnière.
Vraiment ?
Ouais.
Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup d'être présent ici ce soir. Ce soir, Radio Campus vous propose de se joindre à elle, de vous joindre à elle, pour cet apéro audio spécial, un rassemblement de lutte et de fête pour que les violences soient dénoncées et réprimées. On est le 25 novembre, hein, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et puis parce que plusieurs agressions envers des femmes ont été perpétrées au 108, et nous souhaitons alerter le public et travailler avec les différents acteurs, actrices de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux minorités de genre. Alors ce lieu, le 108, qui nous est cher, était un safe place où toutes et tous pouvaient faire la fête dans une relative insouciance. Alors, protégeons-nous, mettons en place ce qu'il faut pour que ce lieu redevienne ce qu'il doit être, sûr, convivial, accueillant, où le respect mutuel est de mise et où toute forme de violence est bannie. Ainsi, nous convions aujourd'hui Consentis, une association de la région parisienne, en la personne de Safiatou Mandi. Merci beaucoup d'être ici ce soir. Nous avons convié également d'autres personnes, en fait, des élus, des responsables de services qui n'ont pas pu se rendre disponibles ou s'exprimer en toute liberté sur nos ondes aujourd'hui. Et puis nous avons un représentant de la Fédération régionale des acteurs culturels musique actuelle, associatif musique actuelle, en la personne de Julien. Bonjour.
Bonsoir.
Alors, ce soir, on vous propose également des DJ sets ici à partir de 19h et jusqu'à 20h30, à partir de 20h30 et jusqu'à 23h30 avec Djellaba, 45 tours de poitrine et Euaskar. Voilà, donc le 25 novembre, on le rappelle, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et c'est ce pourquoi on est là ce soir. Alors, tout d'abord, en fait, on va peut-être partir du début de notre histoire, en fait, et de... Pourquoi, en fait, nous, on a eu besoin d'alerter, en effet, et de convier, en fait, un petit peu davantage de monde. Julien, peut-être, peux-tu nous parler aussi du travail de la FRACAMA, de la Fédération régionale des acteurs culturels, associatifs, musiques actuelles, en ce moment, autour des violences sexistes et sexuelles.
Wow. Gros dossier. Il s'est passé des choses en fin d'été, début septembre, au 108. J'ai une autre association qui s'appelle Renaud Groove, avec laquelle en fait on organise fin août un événement dans les murs du 108. Et lors de cet événement, il y a eu un piqueur qui est venu piquer quelqu'une d'ailleurs. Et j'en étais informé après l'événement. Deux jours après, cette personne est venue me contacter en me disant, voilà, j'ai été piqué, j'ai un début de gangrène au bras, enfin voilà, truc pas cool, vraiment pas cool. Vraiment pas glop, pas glop. Fin septembre, nous avons organisé un apéro audio avec la radio et nous avions des bénévoles qui étaient là. Et un bénévole nous a dit, ah, ben, vous savez, la semaine dernière, lors d'un autre festival qui a eu lieu ici, ma copine s'est fait stalker jusqu'aux toilettes, est un peu coincée, elle n'était pas rassurée. Aujourd'hui, elle ne veut plus aller aux toilettes toute seule au 108. Parallèlement à ça, j'ai été formé à la FRACAMA, une formation de 14 heures sur les violences sexuelles et sexistes, pour être référent, puisque c'est une obligation aujourd'hui dans les structures culturelles de tendre vers l'égaconditionnalité. Si on n'a pas des référents pour lutter contre les VSS et pour faire de l'égalité femmes-hommes, on se retrouve sucré de nos subventions. Et on en a beaucoup discuté. On a vécu un cas aussi de VSS autour de la FRACAMA. La personne de sa coprésidente, ça je ne vais pas m'étaler là-dessus. Voilà. Et donc du coup, on était relativement sensibles et avec ma collègue Viviane, on voulait faire un apéro audio fin novembre. Puisque c'est la régularité. Et ça tombait le 25 novembre et Viviane a tout, tout bonnement dit « Mais en fait, on a des problèmes de VSS au 108. Donc, mettons cette thématique, les VSS en milieu festif, mettons les pieds dans le plat et parlons-en. » Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, moi, j'ai averti aussi la Fracama de ce qui s'était passé au 108 et on a commencé à monter un... Au moins dans le collège 45, donc dans les acteurs du Loiret, on a commencé à monter un groupe de réflexion sur... qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes, essayer d'harmoniser les différentes propositions, harmoniser les protocoles, parce qu'on voit par-ci, par-là des petits des gestes ponctuels, notamment dans les bars, notamment chez certains organisateurs, certaines structures de diffusion, mais il n'y a pas de véritable harmonisation. Et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour harmoniser tout ça? Quel affichage qu'est-ce qu'on choisit? Voilà. Le point où on en est. Alors après, on a d'autres choses, on a des réflexions. Peut-être que je reviendrai un peu plus tard parce que je ne vais pas monopoliser la parole.
Alors, on accueille Safiatou Mandi. Bonjour et merci beaucoup d'être là ce soir.
Bonsoir,
tu représentes l'association Consenti. Tu es coordinatrice de cette association qui lutte contre les violences sexuelles et sexistes en milieu festif. Alors, vous œuvrez... votre campagne qui est diffusée d'ailleurs aujourd'hui dans le 108, ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a des montages? Est-ce qu'il y a...
Non, concrètement, ça va être les messages qui sont là. L'idée, c'est pas de rappeler qu'il y a de la violence, parce qu'on n'est pas là pour mettre les gens en hypervigilance non plus, mais c'est simplement de rappeler que le lieu s'intéresse à ces questions-là et que si jamais il y a un problème, eh ben, il y aurait une réponse derrière.
Alors, dans les formations, justement, vous, quelle est la démarche, en fait? Vous avez une démarche plutôt éducative envers le public? Vous avez une démarche plutôt de rassemblement comment ça se passe?
C'est une démarche éducative. On fait de la pédagogie. Pour nous, le changement passe forcément par la pédagogie. C'est quelque chose qui prend du temps et souvent, c'est d'ailleurs quelque chose qui va de pair avec des actions qui sont plus des actions coup de poing. Ce n'est pas le positionnement de l'association, mais c'est des choses qui se font aussi. Mais l'idée, c'est de changer les imaginaires et les mentalités sur qu'est-ce qu'on vient faire en soirée, en fait. C'est vraiment ça la question, qu'est-ce qu'on projette sur les lieux festifs. Et dans l'étude, parce qu'on a lancé, je l'ai pas dit, mais on a lancé une étude en 2018 sur la réalité des violences dans les milieux festifs en France, étant donné que les chiffres n'existaient pas. Donc les résultats de l'étude, c'est de dire qu'il y a 57% des femmes qui ont un sentiment d'insécurité contre 10% des hommes. Ce sentiment d'insécurité chez les femmes, il est lié à la peur des violences sexistes et sexuelles. Chez les hommes, à la peur de la violence tout court, donc violence raquette, par exemple. Et on voit que ce sentiment d'insécurité, il vient pas de nulle part, puisque concrètement, c'est 60% des femmes qui ont déjà vécu des violences sexuelles en soirée. Et dans cette étude, il y a un chiffre qui a peu été promu dans les médias, c'est que un petit peu moins de 80% des gens, quand ils vont en soirée, viennent écouter de la musique et ne viennent pas draguer. Donc c'est un truc pourtant qu'on projette fort sur les milieux festifs, on vient draguer, faire des rencontres, etc. En réalité, ce que les gens ont répondu au questionnaire, c'était ben, nous, on vient écouter de la musique.
Mais alors, comment on peut expliquer justement qu'il y ait tant de faits, en fait, et qu'ils soient rapportés, en fait, dans ces milieux festifs, si il y a une concentration de personnes qui sont malveillantes, en fait, ce serait ça?
Alors, c'est pas des gens malveillants. Ce dont on se rend compte aussi, c'est qu'il n'y a pas plus de violence dans les milieux festifs que dans le reste de la société. Si jamais on prend d'autres chiffres sur le harcèlement de rue, par exemple, c'est 80% des femmes qui ont déjà vécu du harcèlement sexiste et sexuel dans l'espace public. Si on parle de violence conjugale, c'est une femme sur 10. C'est une femme sur 7 quand elle a moins de 25 ans. Donc 60%, en réalité, c'est très similaire à tout ce qu'on peut retrouver globalement dans la société. C'est un problème qui est social parce que les espaces sont poreux. Donc lorsque les personnes qui autrissent consomment les lieux festifs, comme elles vont au travail, comme elles sont dans l'espace public, etc. C'est aussi la culture du viol, hein, on le dit, on le redit, mais c'est pour ça que nous, on milite pour une culture du consentement, contre la culture du viol, mais la culture du viol fait qu'il y a énormément de personnes autrices qui sont autrices aussi parce qu'elles estiment qu'elles ont le droit, il y a une impunité, mais aussi que bah, en fait, le corps des femmes est à la disposition. Dans l'espace public, s'il y a du harcèlement, c'est parce qu'on estime qu'on a le droit et que le corps est à la disposition du toucher, des regards, des commentaires. Et ça, ça découle directement de la culture du viol. Donc, c'est vraiment pas des personnes qui sont malveillantes, même si c'est vrai que là, cet été, on a entendu beaucoup parler des piqûres sauvages en soirée. Et donc, il y a cette idée de prédation dans les milieux festifs. En réalité, c'est un petit peu comme partout dans le reste de la société. Ce sont des personnes qui sont pétries par le patriarcat et donc qui forcément ont des comportements qui sont des comportements violents parce qu'on est dans une société qui les accepte et qui les même valorise.
Alors, tu le disais tout à l'heure, Safia Tou, tu fais partie donc, de cette association Consentis, qui est une association de fêtards qui œuvre pour les fêtards avec les fêtards. Jusqu'à quel point justement vous êtes fêtard, c'est-à-dire que vous dissociez pas votre action de celle de la réduction des risques liés aux usages de drogue ou de consommation d'alcool. On sait que c'est lié, mais pourquoi en fait, pourquoi l'affirmer pourquoi ne pas le dissocier en fait, pourquoi ça n'est pas dissociable en fait?
C'est pas dissociable parce que dans une société qui consomme les drogues de façon récréative, les milieux festifs sont des lieux de consommation. Donc c'est travailler avec la réalité du terrain en disant les drogues sont là, elles sont consommées de toute façon. L'idée c'est pas, enfin le positionnement de la réduction des risques c'est de dire on va pas dire que c'est pas bien, on va pas dire qu'il faut arrêter de consommer parce que de toute façon on consomme. L'idée c'est de faire de la prévention pour savoir comment les drogues influent sur le corps et comment est-ce qu'elles marchent ou elles altèrent le consentement. On va avoir par exemple des drogues qui sont dites empathogènes ou entactogènes, donc c'est le cas de l'ecstasy, de la MDMA, drogue de l'amour, hein, ce qu'on appelle généralement les drogues de l'amour, et en fait qui vont avoir tendance à prolonger le sentiment de consentement. Donc on va avoir l'impression qu'en face la personne est consentante parce que nous on l'est et qu'on a envie de faire des câlins à tout le monde, etc. Et l'idée, ce n'est pas de dire ne consommez pas d'ecstasy quand vous allez en soirée, vous faites ce que vous voulez, mais c'est si jamais vous en consommez, gardez à l'esprit que le consentement doit être mis au centre encore plus parce qu'il y a une altération potentiellement du consentement de l'autre. Donc c'est simplement ramener comment est-ce que sous alcool et sous drogue, enfin l'alcool étant une drogue, hein, on peut aussi avoir une autre perception du consentement. Mais c'est beaucoup des imaginaires. On en discutait tout à l'heure.
Oui.
Mais l'alcool, c'est, on porte sur cette substance un imaginaire spécifique, qui est notamment un imaginaire de violence, puisque souvent ce qu'on dit, c'est il a l'alcool ou elle a l'alcool violent ou mauvais. Quand on connaît un peu les drogues, on sait qu'il y a trois grandes catégories dans les drogues. Il y a le dépresseur, stimulant, perturbateur. Dépresseurs, c'est toutes les substances qui vont ralentir le système nerveux central, le rythme cardiaque, l'afflux sanguin, ça va être le GHB et l'alcool. Stimulant, au contraire, c'est ce qui accélère le système nerveux central, donc ça va être le speed, la cocaïne, par exemple. Perturbateur, c'est ce qui va altérer la notion du temps et de l'espace. Donc on va avoir le LSD, le cannabis, la sauge, quand on la fume, par exemple. Et donc, ce qu'on vient de dire...
Je ne savais pas qu'on pouvait fumer de la sauge.
Tout à fait, on peut fumer de la sauge.
Ça tombe bien, j'en fais pousser légalement dans mon jardin, c'est parfait.
Salvinorine, exactement.
Et donc du coup, l'alcool qui fait partie des dépresseurs, construction chimique, ne peut pas produire l'impulsivité. Donc on ne peut pas être violent sous alcool. Pourtant, c'est un imaginaire qui est très présent en France. Ailleurs, je ne sais pas, mais en attendant en France. Et on va se permettre d'être violent parce qu'on a consommé de l'alcool. Et ce n'est pas la substance qui crée ça, c'est l'imaginaire qu'on porte dessus. Et en fait, la culture duel, c'est la même chose. Hein, tout se ramène toujours aux imaginaires et aux projections qu'on a.
Donc en fait, quand on est violent sous alcool, c'est juste qu'on est violent de base.
C'est qu'on a un problème avec la gestion de la colère. Tout à fait. Et c'est qu'on ne sait pas où mettre sa colère et comment l'exprimer. Et donc on va en soirée. Et puisque c'est un espace d'émotion où on lâche, eh ben on se dit, j'y vais, je lâche.
Et par rapport à la consommation d'alcool, quand on est dans, pas forcément en soirée, mais qu'on a une consommation d'alcool et qu'on est quand même violent, enfin, parce qu'il n'y a pas le décorum de la soirée qui permet de lâcher, c'est que globalement, derrière, il y a un vrai problème de violence, de comment la contenir, quoi.
Il y a un problème de violence et du coup, ça veut dire qu'on place un imaginaire sur la consommation d'alcool qui n'est plus une consommation festive. Donc on va être violent à la maison, par exemple. Mais moi j'ai travaillé sur le cas des violences conjugales. Dans les violences conjugales, là c'est en Angleterre en l'occurrence, qui c'est très d'actualité parce que Coupe du Monde oblige. Mais
ça va monter en flèche de plus
38%. Ouais, plus 38% d'augmentation des violences conjugales avec la Coupe du Monde parce qu'il y a consommation d'alcool et qu'on projette là l'endroit pour faire sortir ce qu'on n'arrive pas à placer ailleurs. Quoi.
Et encore plus quand l'équipe perd, je crois.
Ben oui, forcément. Parce que du coup, on se venge.
Non, mais c'est des chiffres que j'avais lus il y a 4 ans. C'était assez effarant. Un soir de défaite de l'Angleterre en Angleterre, c'est plus 60 à 65% de violence conjugale.
Ouais, tout à fait. Donc, c'est vraiment une question d'imaginaire.
Pour parler un petit peu Europe, justement, comment nos voisins, en fait, ils mettent en place ce genre d'action, de prévention et de réduction des risques liés justement soit aux usages de drogue, soit à l'alcool et aux violences qu'elles peuvent engendrer. Est-ce que justement vous avez des partenariats vous avec d'autres structures européennes qui vous permettent de voir qu'ailleurs en fait il y a des choses qui se créent et qui sont bonnes à prendre?
Alors oui, bien sûr, puisque l'une des personnes qui a monté l'asso est à Berlin, donc on est en connexion avec l'Europe. Là, début décembre, on va animer une table ronde à Liège, en Belgique, sur ces questions-là, avec le collectif À nous la nuit. Et on a des réunions. Alors bon, la temporalité associative fait qu'on a peu de temps, en réalité, pour faire du collectif, mais on essaye au maximum parce que Consentis se croit fort au collectif. Et on se rend compte qu'on n'est pas tellement plus avancé en Europe, qu'il y a même des pays qui cherchent à avoir des retours de comment ça se passe en France. On a participé aussi il y a quelques mois à une table ronde au Canada, et c'est pareil, dans un pays où il y a une autre approche peut-être plus américaine de la gestion de tout ça, et ben en fait, c'est pareil, on n'est pas très avancé non plus.
On imagine même que le Canada est un pays safer vis-à-vis de plein de choses, enfin, dans l'imaginaire francophone. Ouais.
Oui, tout à fait. Et ben, c'est là où on nous rejoint, c'est que l'activité de Consentis, c'est aussi d'être intersectionnel, c'est-à-dire qu'on prend en considération les corps dans toute leur diversité, donc corps racisé, corps handicapé, corps queer dans l'espace festif. Et au Canada, il y a de plus en plus de recherches autour de ça, mais il y a peu de financement au final. Donc c'est que, en fait, on en est un petit peu au même stade et on expérimente. On est en lien aussi avec une association qui vient de Tunisie qu'on a formée sur ces questions-là aussi. Donc c'est que, au final, c'est pas une problématique qui est que française.
Le patriarcat, c'est un peu international quand même.
Absolument.
peux-tu nous parler de ce guide que vous avez publié en partenariat, je crois, avec les bars, l'opération Safe Bar, avec nous toutes, en effet, et peut-être particulièrement à destination des bars, puisque l'opération s'appelle Safe Bar, en effet. Alors, j'ai déjà une petite question, c'est est-ce que justement votre action elle est accueillie en fait différemment, que ce soit avec des bars, des patrons de bars, ou bien en fait avec des associations qui organisent des concerts, avec des festivals? Comment justement vous arrivez à travailler ensemble, et est-ce qu'il n'y en a pas qui sont un peu plus difficiles à convaincre que d'autres?
Alors la particularité de Consentis, c'est qu'on ne fait pas de démarchage. Toutes les personnes conformes sont des personnes qui viennent nous voir, et on a beaucoup de travail. Donc c'est que... Après, il y a des obligations légales, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure.
Oui, surtout qu'elle se déclenche là à partir du 1er janvier 2023, elle se déclenche fortement. Il y a eu peu de périodes de transition. Ouais. On n'a pas eu beaucoup de temps pour se retourner. On est vite passé du « il va falloir le faire » à « maintenant, il faut le faire ». On n'a pas eu trop de périodes incitatives. Bon, après, on a eu 2 ans de Covid qui n'ont pas forcément permis à s'axer là-dessus. Donc là, effectivement, il y a une grosse accélération dans le milieu socio-culturel.
Absolument, il y a des obligations légales. Maintenant, on travaille avec le CNM sur ces questions-là, où il faut être formé si jamais on ne veut pas perdre cette subvention. Mais jusque-là, on a quand même pas mal de structures qui viennent nous voir, et qui viennent nous voir parce qu'elles ne sont pas sensibilisées, mais elles sont sensibles à ces questions. Et elles sont surtout perdues sur par quel bout on prend la chose. Parce que, quand on gère une salle de concert, on a plein de choses à faire et plein de choses à penser. Et on n'est pas spécialiste des violences. Les violences, c'est un métier. accueillir la parole, c'est un métier, faire de la logistique et savoir où est-ce qu'on met des panneaux, toute la dimension de la problématique des toilettes, par exemple, c'est un truc qui est inconnu pour énormément de personnes, alors que dans la sécurité, notamment des personnes queer, c'est hyper important, c'est un vrai problème. Donc du coup, l'idée, c'est toujours une approche qui est très bienveillante. Hein. Nous, on travaille avec des structures qui ont envie de savoir comment on fait, aussi parce que elles croient à leurs projets. Souvent, c'est des projets qui sont sociaux d'ailleurs, hein, et en fait, elles ont envie d'avoir un public qui se sent en sécurité. Et aussi, on a une évolution des publics. Il y a des publics qui sont de plus en plus mixtes. Alors peut-être que l'accès à la culture y est pour beaucoup. Et c'est vrai que globalement, le monde de la fête, c'est un monde qui est mixte. On n'est pas dans une entreprise du 440. Donc, les problématiques sont encore plus complexes.
C'est un monde qui est un peu sexiste, hein, quand même, le monde de la fête. Hein. Il est quand même fondé un peu historiquement sur le sexe, drogue and rock'n'roll. Hein.
Oui, mixte ne veut pas dire non sexiste. Mais oui, effectivement, c'est sexiste. C'est sexiste aussi parce que bah, c'est ce qu'on voit. Hein, les personnes qui tiennent les structures sont souvent des hommes blancs.
Et, des hommes blancs de 50 ans bien installés, quoi.
Absolument. Et ça, mais enfin, le milieu
six,
festif.
J'ai entendu dans la.
Six, absolument. Mais le milieu festif, c'est aussi des espaces de transgression. C'est des espaces où on a des expositions queer. Enfin, on a fait plein de formations dans des structures qui sont aussi des lieux d'expo et où il va y avoir une expression artistique qui questionne. Et c'est un peu à l'avant-garde de plein de réflexions, le milieu festif. C'est pour ça que c'est joli et qu'on y travaille aussi, parce qu'il est nécessaire et qu'il fait bouger les choses. Mais effectivement, ça reste quand même un monde d'hommes. Alors ça prend comme ça prend. Nous, on donne des ressources, on donne des pistes, et puis après, les gens s'en saisissent. On ne fait pas de forcing, parce que de toute façon, quand on force, ça ne marche pas. Donc la pédagogie de Consentis, c'est que... On donne la ressource et puis ça prend. De toute façon, ça prendra, la société est en marche, hein, sur cette thématique, donc il faut s'en saisir. À un moment, il n'y aura plus le choix.
Ouais. Non, c'est ce que je veux dire, il y a un moment, on n'a plus le choix, quoi.
Alors, en effet, vous avez publié un guide à destination, en fait, des organisateurs de spectacles, des bars, qui s'appelle l'opération Safe Bar. C'était peut-être à l'occasion, en fait, d'un événement particulier.
Balance ton bar, voilà. Ouais, absolument. C'est, ouais. C'est l'événement.
Tu peux rappeler Balance ton bar.
Balance ton bar, c'est des témoignages qui ont popé sur les violences dans toute la mouvance de Balance ton. Il y a plein de groupes qui se sont créés sur Balance ta recherche, Balance ton couple, enfin voilà. Et donc là, Balance ton bar, ça a été un mouvement sur les réseaux sociaux avec des victimes qui disaient j'ai vécu ce genre de choses dans telle structure. Et l'idée, c'est qu'il y a des bars qui se sont retrouvés acculés, qui ne savaient pas quoi faire et qui ont perdu de la clientèle. Et donc, nous, ce qu'on a fait, pas uniquement nous, hein, mais il y a nous toutes, il y a Act Right aussi sur ce dispositif, c'est de mettre, on a créé un kit qu'on a mis à disposition pour que on puisse, enfin, d'où on part en fait. Eh ben, on va partir d'affiches, de sensibilisation, pour faire en sorte que qu'on ait un petit peu de matière quand on est une structure qui ne sait pas par où commencer. Encore plus quand on n'est pas à Paris, parce que les actions sont souvent parisiennes, et ça, c'est un petit problème aussi en termes d'association. On est dans des régions où il y a une mouvance associative qui ne se saisit pas de ces questions-là parce qu'il y a d'autres sujets, ou bien qui est moins présente. Ah bah, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'une fois de plus, c'est complexe, encore plus quand on ne connaît pas, encore plus quand on rajoute l'intersectionnalité. Nous, ce qu'on dit, c'est nos vécus sont complexes, donc montons les dispositifs à la hauteur de la complexité de nos vécus. Mais souvent, on a des structures qui ouvrent la porte et qui se disent « Ouh, c'est vertigineux, attendez, je referme, je m'en vais, c'est trop compliqué, je ne peux pas ». Et on comprend que ça fasse peur, hein, surtout quand on n'est pas concerné. Donc du coup, le kit, c'est de dire on va commencer quelque part, commencez là, et puis après appelez-nous, et puis on formera.
Puis après, il y a clairement ce truc, hein, c'est que quand on a commencé, il y a un abîme. Et du coup, souvent on commence, il y a des choses qui se débloquent, et une fois que les choses se débloquent, y a un vrai engrenage de la parole qui se libère. Et après, il faut aussi libérer l'écoute. Parce que c'est pas si simple que ça aussi d'écouter les victimes. Après, il y a un truc qui est assez particulier aussi dans le milieu festif, c'est qu'on peut avoir des violences entre les personnes dans le public, entre les travailleurs du milieu festif et aussi des fois entre public et travailleurs. Et c'est vraiment un monde avec plein d'interfaces et des choses. Il y a plein de croisements, il y a ouais. cette consommation de l'alcool d'un côté, de l'autre, il y a une banalisation de certaines pratiques de drogue aussi. Donc il y a plein de choses qui sont des interfaces compliquées à appréhender en fait.
Absolument, et en termes enfin au niveau de la loi aussi, c'est des choses qui sont compliquées. Comment est-ce qu'on fait pour protéger quand on travaille avec des bénévoles? Comment est-ce que les bénévoles sont protégés par la loi? Comment est-ce qu'on fait quand il y a des violences entre bénévoles? Est-ce que c'est la responsabilité de la structure ou pas? Enfin, voilà, il y a plein de choses où c'est normal qu'on soit un peu dépassé quand on gère un lieu, qu'on se dise, j'en ai aucune idée et je veux bien faire, mais je sais pas comment, quoi.
Et c'est pas grave de pas savoir faire.
Eh bien, il y a des gens pour nous aider, comme vous, qui publient en effet un petit guide qui nous permet déjà d'avoir quelques chiffres, de pouvoir caractériser les violences. Qu'est-ce qu'une violence sexiste, sexuelle et comment elles sont punies par la loi? Il y a également, en fait, bien sûr, le point de départ et la clé, en fait, qui est le consentement. La particularité des violences sexistes et sexuelles en milieu festif, avec des chiffres qui sont assez alarmants, et quels effets en fait peuvent avoir ces violences dans le milieu, et puis également toute une partie sur la soumission chimique, qui nous concerne particulièrement en effet, puisque nous sommes ici dans un lieu où on vend de l'alcool, on vend en fait des consommations.
Une drogue légale, mais une drogue.
Voilà, une drogue légale en effet, mais que en plus on peut.
Je vois un technicien qui fait. Mais ça reste une drogue.
Malheureusement, quelqu'un pourrait verser quelque chose dans ton verre et tu n'en saurais rien.
Ou même te faire boire à ton insu. C'est aussi une manière de faire une soumission chimique. Hein. Enfin, on peut faire boire des gens sans qu'ils s'en rendent compte. Et du coup, on les amène dans des états où ils sont plus conscients de ce qu'ils font. Et derrière, c'est un viol.
C'est vrai que c'est un truc qui est peu dit et qui a été, nous qu'on s'est efforcé de dire dans les médias quand on a été contactés sur la question des piqûres sauvages, c'est que dans le cas de la vulnérabilité chimique, donc juste pour remettre les termes, vulnérabilité chimique, c'est j'abuse d'une personne qui a consommé volontairement, avec consentement, soumission chimique, j'abuse d'une personne qui a consommé à son insu. Dans les cas de vulnérabilité chimique, la première substance utilisée, c'est l'alcool. Donc l'alcool, c'est un sujet, et d'ailleurs, on n'a pas besoin de piquer les gens pour en abuser. Enfin, on n'a pas du tout attendu les piqûres pour violenter et pour agresser et violer.
Non, mais d'ailleurs, j'ai entendu que les piqûres, il y avait une vague à la fin du 19e siècle. Ce n'était pas du GHB qu'il y avait dans les piqûres à la fin du 19e siècle. La piqûre, il y a un côté fétichiste et introduction dans le corps de l'autre. Ce n'est pas forcément une introduction d'une substance chimique.
Absolument. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont tourné autour de l'administration du GHB par piqûre. En réalité, le GHB, c'est une substance qui est corrosive. Donc, ça veut dire que quand on pique, ça nécrose la peau. Ça se voit. Donc très souvent, lorsqu'il y avait piqûre, soit elles étaient vides et l'idée c'était d'alimenter la peur, soit il y avait autre chose à l'intérieur. Mais voilà, donc simplement parce que c'est vrai que ce truc de piqûre, ça a eu tendance à occulter un peu le fait que l'alcool est la principale drogue utilisée. Et nous on le ramène parce que l'alcool c'est complètement banalisé dans notre société. Une fois de plus, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas boire. Ça veut dire que c'est aussi comme ça qu'on l'utilise, quoi.
Et c'est là qu'intervient justement que peuvent intervenir les assos de réduction des risques, par exemple, dans ce milieu festif. Alors, dans ce guide, vous avez également, en fait, vous énoncez les moyens d'action, pour permettre, en effet, à toutes les personnes, en fait, qui sont victimes, en fait, de pouvoir se tourner vers quelqu'un à un moment donné dans l'organisation, au bar, voilà. Comment justement on a trouvé les moyens de d'impliquer en fait les personnes organisatrices? Comment on agit en fait?
En réalité, l'idée, c'est d'armer les personnes organisatrices. C'est pour ça qu'on fait des ateliers bars. Parce que les personnes qui bossent au bar, c'est les personnes qu'on vient voir quand on va pas bien. De toute manière, qu'elles soient formées ou pas, ne serait-ce que pour avoir un verre d'eau, parce qu'on va pas bien. Donc du coup, l'idée, c'est de se dire, c'est des choses qui se font déjà. Il faut que les personnes qui soient derrière le bar ne soient pas démunies, parce que c'est aussi une violence hein, de ne pas savoir gérer une personne qui ne va pas bien. Donc pour protéger son public mais aussi ses salariés, on va former ces personnes-là de la même manière que lorsqu'on est une personne qui est à la communication et qu'on arrive au travail à 8h du matin, on ouvre la boîte mail et on tombe sur un récit de violence. Ben, en fait, on n'est pas préparé à accueillir la parole, on n'est pas préparé à vivre la violence. Donc c'est pareil, c'est nécessaire de former parce que c'est là. C'est pas quelque chose qui a été suscité par les formations. C'est quelque chose qui est là et nous, on y répond et on arme les structures à être en mesure de se protéger, enfin de protéger leurs salariés et de protéger leur public. En fait, on fait mieux, mais le déversement de la parole, il est là de toute manière. Les victimes, elles parlent.
Oui, et souvent, on ne les entend pas.
Absolument.
C'est ce que j'ai appris dans la formation, c'est qu'en fait, elles ont déjà parlé et qu'on ne les a pas entendues et qu'après, elles se renferment. Et du coup, il ne faut pas louper le coche. Et ouais. C'est pour ça qu'en fait, il vaut mieux parler de libération de l'écoute plutôt que de libération de la parole.
Absolument, on parle de libération de l'écoute. Ouais.
Voilà, et puis de nombreux outils en fait, sont mis à disposition en effet, de tous les organisateurs, les bars et toutes les personnes en effet, qui souhaitent hurler haut et fort en fait, qu'il s'agit d'être consentant et qu'après tout ira bien.
Je ne sais pas si tout ira bien quand tu auras le consentement. Mais...
Essaye d'être un peu joyeuse.
Tout ira un peu mieux.
Mais encore faudrait-il savoir ce que c'est que le consentement.
Ah oui, consentement alors, choisi, justement. Désiré, subi.
Justement, il y a tout un paragraphe sur le consentement en fait, dans votre guide que je vais retrouver parce que je n'ai pas bien travaillé, parce que j'étais au conseil régional cet après-midi.
Sur les 5 points du consentement, je les connais.
Les 5 points du consentement, en effet, par consenti.
Absolument. Donc, l'idée des 5 points du consentement, c'est que le consentement, c'est un terme qu'on entend, qu'on voit, qu'on lit sur les réseaux sociaux, beaucoup, de plus en plus, qui est saisi par la nouvelle génération. Mais on met des imaginaires, une fois de plus. J'aime bien ce mot, mais c'est très réel. Hein. Les imaginaires sont créateurs de réalité. Derrière, qui sont très différents en fonction des gens. Et chez Consentis, on a essayé de ratisser large pour se dire qu'est-ce que c'est que le consentement, comment on le définit et matériellement, puisque on est une association terrain, donc le matériel, c'est quelque chose qui est important chez nous, comment il prend forme. Et on l'a défini en 5 points, qui sont enthousiaste, libre et éclairé, spécifique, réversible, informé. Si j'explique ce que c'est, ces mots, parce que ça veut tout et rien dire en réalité. Enthousiaste, c'est l'action. Donc c'est que le consentement, il est actif. Si jamais on ne répond pas, parce que ce n'est pas uniquement un non, on entend souvent hein, ce truc de dire non, c'est non. On sait que c'est beaucoup plus complexe que ça. Une personne qu'on va toucher et qui ne réagit pas, c'est une personne qui n'est pas d'accord. Et ce fameux truc de dire qui ne dit mot consent...
C'est valable que pour l'administratif, ça.
C'est faux, exactement. Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre dans les relations humaines. Donc l'enthousiasme, c'est ça. Et si jamais on sent que c'est un peu mou, que c'est un peu bof, on pose la question pour s'assurer qu'on est bien OK. Libre et éclairé, c'est laisser la place au non. Donc c'est savoir se positionner dans ce qu'on est en termes d'enjeu. Je vais prendre l'exemple d'une relation conjugale, par exemple. Mais si ça fait 2 semaines que je te dis que j'ai peur que tu m'aimes plus parce que tu ne veux pas avoir de relation sexuelle avec moi et que ce soir, j'initie l'action, est-ce que tu me dis oui parce que tu as peur que je te quitte ou parce que tu as vraiment envie d'avoir une relation sexuelle? C'est la place du non. Et ça, c'est vrai dans les milieux festifs aussi, sur ce qu'on appelle et ce qu'on a défini. Nous, sur le compte Instagram, on fait des posts qui définissent un petit peu des concepts comme ça, mais ce qu'on appelle la dette sexuelle. La dette sexuelle.
La dette sexuelle,
c'est le fait de se sentir redevable. Lorsqu'on nous a payé un verre, lorsqu'on nous a invité au resto, parce que c'est la Saint-Valentin, etc. Donc il y a vraiment ce truc de dire, quand c'est gratuit, c'est que le produit, c'est vous, concrètement. C'est laisser la place au non. Je t'offre un verre, mais ça ne veut pas dire que derrière, tu danses avec moi, tu me donnes ton numéro, on couche ensemble. Enfin, voilà. Donc ça, c'est libre et éclairé. Réversible, ça veut dire qu'on a le droit de changer d'avis, donc c'est la place pour changer d'avis. Spécifique, ça veut dire que oui pour, admettons, une relation sexuelle avec une pénétration vaginale, c'est pas oui pour une pénétration anale. Et informé, c'est qu'il faut tenir informé son ou sa partenaire des risques d'IST ou de grossesse. Voilà, donc ça c'est les 5 points, et en fait chaque point est un concept qu'on pourrait tirer au maximum, quoi.
Et le consentement, c'est quand même une affaire d'affirmation de soi, quand même. Quand ouais. on est pas sûr de soi, pas confiance. En effet, tu le disais, hein, quand on est dans une relation un peu déséquilibrée et que on a des rapports sexuels, mais pas forcément parce qu'on a envie d'avoir des rapports sexuels, mais parce qu'on doit quelque chose à quelqu'un, parce qu'on a peur d'être quitté. Ouais. Et tout ça, et il faut s'affirmer, en fait, et c'est ça peut-être qui est difficile, en fait, vraiment. Dans le...
Alors, c'est ce qu'on dit aussi, c'est que le consentement, c'est avec l'autre, c'est aussi avec soi. Notamment dans des schémas qui sont des schémas de fête, où on va se dire, qu'est-ce que c'est une bonne soirée ? Pour certaines personnes, ça va être je sors, je bois, je drague, je ramène quelqu'un chez moi, j'ai un rapport sexuel et j'ai passé une bonne soirée. Et à aucun moment dans la répétition de ces schémas, on se pose la question de attention, est-ce que ce soir j'ai vraiment envie ? Ou est-ce que ce que je fais, c'est parce que j'ai besoin d'une validation quelconque, qui est normale étant donné qu'on est dans la société dans laquelle on est ? Se poser ces questions-là, c'est aussi hyper important sur comment je pose mon consentement, comment je me sens de le poser. Et c'est une responsabilité qui est commune, hein, ça se fait à deux. Donc c'est moi. Mais après, le fait de dire le non, on sait que c'est quelque chose qui est difficile. Donc l'affirmation du non, en réalité, elle est complexe. Et l'idée, c'est pas de tomber dans une responsabilisation et une culpabilisation des victimes sur le « t'as pas dit non ». Voilà, c'est de ta faute. En fait.
C'est marrant parce qu'il y a quelques mois, il y avait Ovidie qui était au FRAC à Orléans pour une conférence, et on a parlé aussi un peu de ces questions de consentement et du désir aussi. En fait, il y a une notion d'un consentement, et on parlait avec des gens du planning familial qui sont là dans l'assistance, et il y a des choses qui se rejoignent dans leur redéfinition du consentement et dans la vôtre. Et après, il y avait quelque chose que je touchais du doigt personnellement, et je ne sais pas si c'est conceptualisé, mais la question du viol ordinaire, en fait. De les femmes, on leur a appris à dire oui, même si elles ne sont pas consentantes, et que derrière, en fait, il y a cette problématique-là, en fait, de la société qui met une sorte de pression, et qu'en fait, potentiellement, tous les hommes, en fait, sont violeurs, puisqu'on leur a dit oui sans un véritable désir.
Ouais, et c'est une des grosses problématiques, le viol, sur tous les viols qui sont rapportés. Quasiment 50% de ces viols sont des viols conjugaux. Donc c'est un truc qui revient beaucoup avec ce truc de viol ordinaire, c'est le devoir conjugal, ça a été vrai dans la loi jusque dans les années 90, et à partir des années 90, ça a été puni, et d'ailleurs c'est une circonstance aggravante, hein, quand il y a un viol par le ou la conjointe. Mais oui, effectivement, on est encore dans ce truc de séquelles d'une société qui ne pense pas le couple et le désir de la même manière qu'on le pense maintenant. Et donc c'est pour ça que dans le couple, pourquoi est-ce qu'il y avait cette obligation du devoir conjugal ? Parce qu'on vient d'une tradition où... parce qu'il faut se perpétuer le nom, parce que c'est la famille.
Le droit de cuissage.
Voilà, donc il y a quelque chose où maintenant, le désir et l'amour s'est pris en compte dans la relation sexuelle, là où avant, ce n'était pas le cas. Et c'est long de se défaire de ça, sachant que bon... Je parle comme si on en était sorti, en réalité on n'en est pas sorti, donc on parle de séquelles, mais on parle aussi de pressions qui sont encore très actuelles.
Et c'est marrant là, cette question du viol conjugal, personnellement j'ai eu une grosse discussion avec des amis mercredi soir, où justement on parlait du viol conjugal, et ils trouvaient que dire viol conjugal, c'était édulcorer le viol. Et moi j'en dis mais non, légalement c'est une circonstance aggravante, parce qu'il y a le couple, l'espèce de cocon, et donc du coup il y a une emprise qui est plus forte. Et non, c'est pas parce que c'est conjugal qu'en fait c'est banal, en fait c'est juste ouais. Et il y a même, et pourtant ce sont des militants et des féministes, et du coup il y a vraiment toute une pédagogie à faire aussi sur les terminologies.
Absolument, et édulcorer le viol, c'est aussi parce qu'on a encore l'imaginaire du viol comme quelque chose de violent. Alors que le viol, il est très souvent psychologique. Enfin, la façon dont on arrive à violer, c'est pas en tapant sur quelqu'un. En réalité, c'est un chiffre qu'on connaît, hein, 90% des personnes autrices sont des proches. Le viol, il est rarement dans la rue avec un couteau à 2h du matin. Donc on n'édulcore pas. C'est la réalité concrète, c'est le viol conjugal, en fait. C'est
presque ce qu'il y a de plus courant.
Absolument.
Alors, pour continuer notre émission et puis, agir, qu'est-ce qu'on fait, justement, quand on est victime, quand on est témoin de violences sexuelles en milieu festif ou bien ailleurs? C'est pareil, que ce soit en milieu festif ou ailleurs ou pas.
Ouais. Alors, c'est oui, les recours sont les mêmes, c'est-à-dire que ça va dépendre du besoin. Donc déjà, on s'adresse à une personne formée. Donc c'est pour ça que c'est important que les lieux, parce qu'on s'adresse à la première personne qu'on trouve en réalité quand on est victime, hein, y a une notion d'urgence. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait que les structures aient du personnel formé pour pouvoir raconter et surtout pour pouvoir avoir à disposition des ressources qui soient légales, qui soient psychologiques, qui soient médicales. Tout dépend de l'agression. S'il y a eu viol, eh ben, c'est important d'aller faire des tests. Tout dépend s'il y a eu utilisation de préservatifs, etc. Mais c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément lorsqu'on est victime. Et c'est de la responsabilité du professionnel que de l'amener en disant « je ne te force à rien » parce qu'il y a un grand principe de temporalité de la victime. « Je ne te force à rien, mais les ressources sont là et tu t'en saisis. » C'est pour ça que nous, dans les formations, on parle beaucoup du délai de prescription. Il y a une urgence à aller porter plainte souvent. Et ce qu'on dit, c'est le viol, il y a un délai de prescription de 20 ans, 30 ans, quand c'est sur un mineur à partir de la majorité. S'il y a autant de temps, c'est précisément parce que ça prend du temps d'aller porter plainte. C'est une violence. Donc du coup, cette ressource, il faut aussi la mettre à disposition pour qu'il n'y ait pas une culpabilisation des victimes, de dire « oh là là, mais alors si j'y vais pas, ça veut dire qu'il va y en avoir d'autres, etc. » Ce n'est pas de la responsabilité des victimes, ça c'est de la responsabilité des lieux. Donc, quand on est victime, on fait ça. Quand on est témoin, au maximum, on va essayer de récolter des preuves. Nous, c'est un truc qu'on dit, hein, donc noter. Si jamais il y a agression sexuelle sous vos yeux et que vous ne savez pas comment réagir, c'est aller alerter quelqu'un. Donc c'est le principe des 5D. Je ne sais pas si 5D, c'est quelque chose qui parle.
Détourner.
Les 5D, c'est distraire, déléguer, documenter, dialoguer, diriger. Et dans les 5D, il y a le fait de documenter pour avoir des ressources, enfin de la matière à disposition s'il y a une volonté d'aller porter plainte, parce que l'une des problématiques dans la gestion de la justice, c'est qu'il n'y a pas de preuves. Souvent, il n'y a pas de preuves. Et donc, du coup, c'est aussi une des responsabilités des témoins que de dire, bah, moi, j'ai vu. Et en fait, il était telle heure, il était habillé comme ça, elle était habillée comme ça, il y avait tel groupe qui passait. Enfin, voilà, c'est d'amener les preuves. Donc, en tant que témoin, on peut faire ça. Et en tant que témoin aussi, avec les 5D, on peut réagir. Hein. Même en tant que personne lambda, on est complètement légitime à distraire. Nous, ce qu'on conseille la plupart du temps, c'est de distraire parce que c'est ce qui est le plus sécurisant. Ça va être aller détourner l'attention de la personne autrice. Donc, ce qu'on dit, c'est si jamais c'est une agression d'un homme sur une femme, on est une femme, on va voir la victime et on lui demande n'importe quoi, sous prétexte de n'importe quoi, où sont les toilettes, qu'est-ce que tu bois, est-ce que tu as l'heure, je te connais, comment tu vas, ça fait longtemps, etc. On ouvre une porte de sortie, on ne se met pas en danger parce que souvent, si on n'agit pas, c'est parce qu'on a peur. Hein. Encore plus quand on est une personne sexisée, donc une personne qui vit le sexisme. La personne autrice ne se rend pas compte que ce qu'on est en train de faire, c'est de sauver la mise à la personne victime. Si on a un homme, par contre, et ça c'est un truc de vigilance, parce que souvent c'est des choses qu'on a comme question en formation, on va voir la personne autrice, parce qu'on ne veut pas déclencher de la survigilance de la personne victime qui est en train de se faire harceler et qui envoie un autre arriver qui dit « Oh non, il y en a un deuxième.
» Et éviter le complexe du sauveur aussi.
Et éviter aussi de se prendre pour un sauveur. Donc on va voir la personne autrice, si c'est un homme, et pareil, on lui demande n'importe quoi. « J'adore tes chaussures, tu les as achetées où ?» On détourne l'attention et la victime comprend et elle s'en va. Et d'ailleurs, ce qu'on dit avec distraire, c'est que les victimes, les groupes, notamment les groupes de femmes, le font déjà entre elles. Quand on va en soirée, avec des potes meufs, on check régulièrement où est-ce qu'elles sont, qu'est-ce qu'elles font. Et puis, ah tiens, ça fait 15 minutes qu'il la lâche pas et je la sens pas bien. Je vais la voir et je lui dis n'importe quoi. Tu viens avec moi, on va faire des tacos dans la cuisine. On distrait. L'idée, c'est de faire la même chose avec des inconnus.
Et quand on est organisateur, justement, tu disais tout à l'heure, c'est de la responsabilité de l'organisateur. Quand, si les choses se reproduisent, en fait, s'il y a plusieurs fois, en effet.
Et si on n'est pas formé, c'est compliqué déjà.
Voilà. Donc, si on est organisateur, il faut se former. En fait.
Exactement. Enfin, c'est un peu le but en fait de ce qu'on a essayé d'initier dernièrement, quoi. Et c'est surtout aussi l'accueil de la victime, c'est aussi de lui redonner le choix. Parce qu'en fait, quand on est victime, on a perdu le choix de ce qui se passait. Il y a quelqu'un qui nous a imposé quelque chose. Donc du coup, il faut surtout lui redonner le choix et il ne s'agit pas de nous. La victime est au centre de l'accueil, en fait. C'est tout doit tourner autour d'elle et jamais ramener à sa personne, pas dire « Tu sais, je l'ai vécu il y a 3 jours aussi. » Non, c'est elle, dans cet instant-là, proposer-lui même juste un verre d'eau, histoire qu'elle ait le regain du choix dans sa vie, quoi.
Absolument. On fait l'inverse de ce que font les agresseurs. Les agresseurs prennent la décision à la place des victimes. Et nous, en accueillant la parole, on ne prend pas la décision. Et on leur fait confiance sur le fait qu'elles sont capables de faire des choix pour elles. Et que ce n'est pas des petites choses fragiles. Parce que ce qu'on rappelle aux structures, c'est que les victimes n'ont pas attendu qu'on s'en tisse et n'ont pas attendu la formation des structures pour mettre en place des stratégies d'évitement, d'apaisement, de survie. Elles se défendent toutes seules et on n'est pas sauveur, c'est ce que tu disais. On est un coup de pouce, mais elles se reconstruisent seules. Elles n'ont pas besoin de sauveur.
Peut-être que dans la salle, certaines personnes ont des questions à poser à Safiatou, à Julien.
J'avais moi le point aussi de fin de notre, enfin pas de fin, mais point de début en fait de ce qu'on a réfléchi au sein de la Fracama. On a une lettre ouverte. Qu'on voudrait le dire. Alors, est-ce que je peux...
Vas-y, je
t'en prie. C'est une lettre ouverte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels en métropole orléanaise. Différents acteuristes des musiques actuelles et organisateuristes d'événements de la métropole orléanaise se sont réunis dernièrement à la suite d'événements qui nous ont interpellés. Des violences de la part de certains individus d'ordre sexuel et sexiste nous ont été rapportées. Nous ne tolérons pas ce comportement sur nos événements et condamnons fermement ces pratiques. Au-delà des initiatives individuelles, nous constatons le manque de dispositifs et de réponses communes par rapport à d'autres départements français. Nous souhaitons collectivement mettre un terme à ces comportements afin de continuer à organiser nos manifestations dans des lieux sécurisés pour nos publics. Nous lançons un appel à tous les acteuristes du territoire, organisateuristes, commerçants, commerçantes, bars et restaurants, lieux d'accueil des publics qui souhaitent se joindre à notre concertation. Nous souhaitons créer un espace de dialogue. Nous voulons mettre en place une charte commune pour l'accueil de tous les publics de manière sécurisée, organiser des formations pour les personnes volontaires à l'écoute, à la protection des victimes et pouvoir les rediriger vers les organismes qualifiés afin qu'un accompagnement leur soit proposé. Nous réfléchissons à mettre en place des outils et moyens de communication d'affichage adaptés et à disposition dans nos événements et lieux pour les rendre plus sûrs et dire fermement aux harceleurs, agresseurs, violeurs qu'ils n'ont pas leur place parmi nous. Nous souhaitons recueillir votre parole pour connaître ce que vous vivez à Orléans, particulièrement ou dans le département. Vous, en tant qu'utilisateuriste de ces lieux de vie et festifs, et vous, ceux qui organisent tous les jours des événements et qui accueillent des publics dans vos établissements et vos soirées. C'est pour cela que nous vous proposons de répondre à une enquête. On vous transmettra le lien pour répondre au formulaire. À toutes celles qui souhaitent s'impliquer dans cette initiative, nous vous proposerons une première rencontre de concertation dès le début de l'année 2023. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez le faire pour l'instant via le site de la Fracama et on va créer une adresse de contact rapidement. Les structures déjà impliquées dans cette concertation sont Radio Campus Orléans, Renaud Groove, Helium 4, l'Astrolabe, Musique et Équilibre, le Tri Collectif, Yanaï Lab et la Fracama.
Merci.
Merci. Donc ça, c'était la lettre ouverte de la Fracama.
Tout à fait.
On avait des questions dans le public pour Safiatou, notre intervenante de Consentis.
Oui, bonjour. Je me demandais tout à l'heure, il y avait un truc qui avait été cité, c'était le complexe du sauveur. En quoi ça consiste ? C'était quoi ?
Le complexe du sauveur, c'est agir pour soi plus que pour la victime. Donc c'est un positionnement de... Par exemple, je vais donner un exemple. Lorsque on est dans une situation, que ce soit pour le coup, ça marche en milieu festif, ça marche en entreprise, ça marche partout, où on assiste à des comportements sexistes. L'idée, c'est pas de dire ça la gêne. Si on part du principe que la victime est une femme, c'est de dire moi ça me dérange. C'est-à-dire je suis pas là pour la sauver, je suis là parce que je fais aussi partie des victimes. Et donc, je recentre sur moi. Je ne suis pas le chevalier servant. Je fais partie des personnes qui vivent mal cette situation. Et donc, je ne vais pas mettre les projecteurs sur elles et moi avec une posture surplombante en disant bah, je vais intervenir pour elle parce qu'elle ne le fait pas, mais plutôt ce que tu fais, moi ça me dérange, j'aime pas avoir autour de moi des personnes qui, je sais pas, par exemple dans le milieu professionnel, diffusent des photos porno par groupe de mail, enfin chaîne de mail à tout le monde. Moi c'est un truc qui me dérange, ça me met mal à l'aise, et je parle pas au nom des autres, je parle au nom de moi. Donc c'est une question de posture.
D'ailleurs, la chaîne de mail pornographique, c'est du harcèlement environnemental.
Absolument, et c'est puni par la loi. Ouais.
Les dick pics, notamment, je crois que c'est 5000 euros d'amende en fonction du...
Ouais.
Mais oui, du coup, poser plus de questions plutôt que de dire « Oui, tu vas pas bien, il faut s'en aller. »
Vas-y.
Dans le complexe du sauveur, il y a aussi le fait de récupérer la lumière. Genre, tu vas sauver une fille et derrière, espérer que tu vas voir... un petit sourire ou un regard en échange. Il y a ce truc-là.
Oui, ou considérer qu'elle n'est pas capable de se sauver toute seule.
Exactement. Et mettre en avant le fait qu'elle n'était pas capable de se sauver toute seule. En fait, tu assistes à une situation de harcèlement, tu ne dis pas « ça dérange cette personne ». Vous voyez, je suis venu, je l'ai sauvé. C'est « ça me dérange ». Ce que tu fais, ça me dérange. Et on passe à autre chose. On ne va pas voir la personne en disant « hey, t'as vu, je t'ai aidé à t'en sortir ». Terminé, quoi. Et le complexe du sauveur, c'est très masculin, malheureusement. Le chevalier blanc, quoi.
Non, mais après, on peut s'inquiéter pour la personne.
Alors, ça, c'est pas du tout fait de la même manière. S'inquiéter, savoir si c'est OK, plutôt que de dire « t'as vu, je t'ai aidé ». Plutôt, c'est pas la même chose que de dire « est-ce que c'est OK, est-ce que tu as besoin de quelque chose ?»
Parce que c'est vrai que tout à l'heure, il y a quelque chose d'important qui a été dit, c'est que lorsqu'on est un homme, la difficulté, c'est d'aller vers la personne agressée et pas surenchérir. Mais c'est vrai que le premier réflexe qu'on aurait, c'est justement d'aller voir la personne agressée.
Oui, tout à fait. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est se replacer dans ce qu'on est soi et dans ce qu'on renvoie à l'autre. Enfin, tout est une question de corps, quoi. C'est-à-dire je suis un homme, forcément je fais, enfin par exemple dans la question, je vais ramener des trucs matériels concrets, mais dans la question du harcèlement de rue, souvent lorsqu'on intervient sur la question du harcèlement de rue, on dit si vous êtes allié, que vous vous promenez dans la rue, il fait nuit, vous êtes tout seul dans la rue et puis il y a une femme devant vous, vous la sentez pas bien, on n'est pas bien. Lorsqu'on est une femme globalement dans l'espace public tard le soir, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on change de trottoir.
C'est
un positionnement d'allié. Et ça ne vient pas instinctivement, parce qu'on peut se dire, bah, moi je vais là, c'est bon, pourquoi ce sera à moi de changer de trottoir? Souvent on a ce genre de réflexion, mais c'est se replacer dans son corps et dans ce qu'on projette sur l'autre, enfin plutôt ce que l'autre projette sur nous, parce qu'on est dans une société où les hommes sont violents. Donc du coup, forcément, quand on est une victime, on a peur. Et c'est dire, je prends en compte ça, je sais qui je suis et donc du coup j'agis en conséquence. Et c'est pareil, si jamais il y a une victime qui se fait harceler, aller la voir alors qu'elle est déjà harcelée, c'est rajouter de l'hypervigilance. Donc je fais en sorte de passer par un autre chemin.
Et puis occuper deux trottoirs, ça prend plus de place. Voilà. Du coup on occupe plus l'espace contre les agresseurs.
Je me permets de rebondir par rapport à ça, mais dans la loi, il y a un truc de non-assistance à personne en danger. Ouais. Et qu'est-ce qu'on est censé faire de ça? Parce que du coup, je veux bien que la ligne soit très fine, mais du coup, est-ce qu'on devrait plutôt risquer d'être incarcérable pour non-assistance à personne en danger ou...
Alors, ce que je dis, c'est pas qu'il faut pas aider. C'est pas une question de j'aide ou j'aide pas. C'est pas là où se pose le propos. Le propos, c'est la posture que j'adopte quand je le fais. Okay. C'est surtout ça. Et la question de non-assistance à personne en danger, on parle de danger de mort. Enfin, on risque, concrètement, on risque pas vraiment la prison. Parce que quand on parle des 5D et qu'il y a des gens qui nous disent, mais moi, des fois, émotionnellement, je suis pas capable de réagir quand il y a du harcèlement. Est-ce que on peut porter plainte et... Non. Concrètement, on ne porte pas plainte contre les personnes qui ne réagissent pas. Enfin, déjà, c'est 1% des viols qui donnent lieu à des condamnations en France. Donc, comment dire que sur la question du harcèlement, on n'en est pas là au niveau de la loi. Mais ce n'est pas du tout un truc de je suis un homme, donc du coup, je ne vais pas aider parce que je ne veux pas être sauveur. C'est plus comment je fais pour ne pas me placer en sauveur sur une question de posture.
Je rajouterais qu'en plus, distraire l'agresseur, c'est déjà apporter assistance à une personne en danger. Donc du coup, il y a pas la, enfin tu vois, c'est ouais. Il n'y a pas de problème, en fait.
Mais après, à défaut d'intervenir soi-même, parce que je peux complètement comprendre qu'il y a des personnes qui soient en situation de difficulté pour intervenir, on peut se tourner aussi vers un rayon. Si on est, par exemple, ici, on prend l'exemple ce soir de l'apéro duo, on se tourne vers quelqu'un qui est référent, ou même on peut avoir des amis qui ont peut-être plus d'appétence que nous pour gérer ces situations-là. Je pense qu'on peut aussi se tourner vers des gens de confiance si soi-même on n'est pas en situation de...
Absolument, c'est le dé de déléguer.
Ah oui, bah oui.
Je l'ai pas expliqué.
Je suis comme les mauvais élèves,
je
n'écoute pas.
C'est le dé de déléguer. Et j'ajouterais juste que, en théorie, bien sûr, en pratique, c'est toujours plus compliqué. Le terrain, c'est toujours plus compliqué. Donc, l'idée, c'est de dire, particulièrement quand c'est des victimes qui veulent réagir, enfin, c'est des personnes qui vivent déjà le harcèlement, on leur dit si aujourd'hui ça va pas, parce qu'en fait, ça arrive. Des fois, aujourd'hui, ça va pas et émotionnellement, je suis pas capable. Eh ben, c'est pas grave, il y a d'autres gens qui le feront.
Oui, mais moi, je parlais même de délégation de personnes qui sont témoins. Un témoin lui-même qui n'arrive pas à intervenir.
C'est le délégué. Ouais.
Ouais. Une chaîne de délégation, en fait.
Tout à fait. Absolument.
Et au pire, il y a toujours le 17, hein.
Oui, aussi.
Oui, bien
on peut
sûr.
Carrément appeler les personnes qui sont.
Bon, après, il y a l'urgence à gérer aussi.
Souvent, même s'il y a un 3-1-2, il y a quand même le 17.
Ouais.
D'autres questions peut-être ? Non ? Bon, eh bien, nous allons clore cette émission. Je te remercie beaucoup, Safia Tou.
Merci à vous.
On le rappelle, hein, consentis.info. Pour trouver à la fois le kit hein, qui permet eh bien de s'équiper quand on est organisateur de spectacle, quand on est un bar, quand on reçoit du public, pour faire en sorte d'éloigner les vilains. Et puis également en fait sur votre site, il y a toutes les infos en fait pour accéder à vos formations si on a envie en effet et si on a besoin bien sûr de les suivre. Et puis il y a plein d'autres choses sur votre site voilà, qu'on peut retrouver.
J'ajouterais même que avant même les formations ou la tenue de stand, nous dans la politique des petits pas, des structures qui viennent nous voir et qui nous disent par où on commence financièrement, pour nous c'est compliqué, on a les affiches qui sont juste derrière, qui sont un premier pas, qui sont accessibles complètement gratuitement. Nous on envoie le kit de prévention avec plaisir, qu'on imprime et qu'on placarde partout, et les toilettes, une fois de plus. Affiche ça dans les toilettes, c'est un lieu stratégique les toilettes, on le dira jamais suffisamment, mais ça permet de se légitimer en tant que victime en disant ok, effectivement je crois que je suis pas bien et que c'est normal, donc je vais aller en parler à quelqu'un. Donc commencez par les affiches, avant même de penser aux formations, c'est très efficace aussi.
Après il y a le safe word aussi, je sais que sur Orléans il y a quelques bars qui commencent à intégrer le dispositif Angela. C'est un safe word qui commence à être un peu répandu. En général, maintenant, quand on va dans un bar, si on dit « je voudrais commander un Angela », clac, normalement, il commence à y avoir des gens qui ont le réflexe de dire « ok, cette personne qui me commande ce cocktail, elle est en situation de détresse vis-à-vis de VSS. Voilà. »
Et je finirai peut-être sur un petit point intersectionnel. Je parlais tout à l'heure de l'accueil de la parole d'une victime. Et je parle de corps et de représentation beaucoup parce que c'est une réalité matérielle qui est très présente. Les victimes, elles parlent aussi aux personnes auxquelles elles s'identifient. Ça veut dire que si je suis dans un lieu où le staff est uniquement blanc, hétéro, homme, eh ben, je ne vais pas parler. Donc avoir un staff mixte, ça participe aussi à un bon accueil parce que lorsqu'on vient vivre une situation de violence, eh ben, on cherche une personne qui nous sait. Donc le truc de se dire on se sait, je vais pas être obligée d'expliquer pendant 1000 ans que ce regard me dérange, que cette main dans mes cheveux parce que je suis une personne racisée c'est de la violence, parce que cette personne comprendra. Donc c'est aussi, alors pour le coup c'est un truc de long terme hein, parce que faire changer le staff, voilà, on sait que c'est pas forcément de l'immédiateté, donc il y a plein de petites choses à mettre en place et sur le court terme et puis sur le long terme. Mais c'est vrai que sur le long terme, avoir un staff qui est mixte ou des bénévoles qui le sont, et donc comment est-ce qu'on va recruter les bénévoles, c'est aussi des questions à se poser en interne, c'est important.
Très bien, merci beaucoup Safia Tou d'être venue depuis la région parisienne.
Avec plaisir.
Merci. Et puis, alors la suite des événements sur campus, c'est déjà de la musique, Benjamin. Tu vas nous mettre cette sélection musicale féminine que j'ai concoctée spécialement pour l'événement. Ensuite, à 20h30, c'est Djellaba qui ouvre le bal. Ensuite, c'est les 45 tours de poitrine. Et ensuite,
Huascar.
Ouais, alors c'est pas son vrai nom de DJ. Cholit. Voilà, et ben bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été présente et présent. La manière.